radio, Ismaël au 14h. J'ai réussi totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, de mes précisions, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de vous joindre à nous dans cet échange dans l'émission Parole aux auditeurs. Il s'ouvre ces jeudi 24 juillet à Nairobi au Kenya, un sommet des chefs d'État de la Conférence internationale pour la région des Grands Lacs, CIRGL, presque entièrement consacré à l'emploi des jeunes dans la région. Selon le secrétaire permanent de la CIRGL, Alphonse Sombalwaba, la population de la sous-région des Grands Lacs est majoritairement jeune et cette jeunesse est frappée par un taux élevé de chômage. Notons qu'en RDC, pays où le taux de chômage avoisine près des 80%, les jeunes ont beaucoup de difficultés à accéder à l'emploi. Que proposez-vous pour faciliter aux jeunes l'accès à l'emploi en RDC? 081-890-4969, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct. J.R. Lungembo coordonne et réalise cette émission mise en onde par Paul Badianyama. Pierrot et la Meiji vous la présente sous la supervision de Nicole Ngaka, fidèle auditeur. Bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiotapi.net. Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Comment faciliter aux jeunes l'accès à l'emploi en RDC? C'est au centre de notre échange de séjour dans cette émission. Je le disais tout à l'heure, les chefs d'État, membres de la CIRGL qui vont se réunir à Nairobi au Kenya, vont se pencher sur l'emploi des jeunes. On estime que dans la sous-région, les taux de chômage est très élevé en milieu de la jeunesse qui est dans, en grande majorité la population de cette sous-région. Qu'est-ce qui doit être fait pour faciliter aux jeunes l'accès à l'emploi? 081-890-4969, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct. Eddy, vous êtes à Lubumbashi, au Katanga, Galvani, à Mbujimayi, au Kasai Oriental. Eddy, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, monsieur.
On vous écoute, Eddy. Qu'est-ce qui doit être fait pour faciliter à la jeunesse l'accès à l'emploi dans notre pays?
Bon, pour parler de l'accès à l'emploi, vous comprendrez bien que dans notre pays, la jeunesse est en majorité non qualifiée. C'est-à-dire une jeunesse qui n'a pas été formée. Vous n'avez qu'à voir le programme scolaire dans notre pays. C'est un programme qui ne privilégie pas les métiers, disons les études de métiers, par exemple la menuiserie, la maçonnerie, autres, l'électricité, la mécanique et autres. Il y a plus des écoles qui forment dans des domaines tels que la littéraire, scientifique, maths physique, scientifique de chimie. Même lorsqu'un jeune qui décroche un diplôme dans ce domaine-là, il sait quoi faire dans la vie. Alors, il faut commencer d'abord par la qualification de ces jeunes de l'Afrique, en commençant par revoir le programme scolaire et aussi en insistant sur la préparation professionnelle. Moi, je suis ici au Katanga. Il y a plusieurs entreprises minières qui se sont implantées. Mais je vous dis la vérité, il manque de jeunes qualifiés. On a besoin de bons soudeurs. Il n'y en a pas. On a besoin de jeunes gens pour des opérateurs, pour des grands engins. Il n'y en a pas. Donc, ici chez nous, il faut non seulement ouvrir une entreprise, mais aussi il faut prévoir la formation des jeunes. Or, cette formation coûte. Et ceux-là qui viennent investir, ils ont besoin de trouver directement la main d'œuvre. Donc, il y a ce problème-là. Deuxièmement, moi, je pense qu'il faut aussi utiliser la méthode IMO, c'est-à-dire auto-utilisation de main d'œuvre, surtout pour la réhabilitation de nos routes. Comment pouvoir être dans un pays où il y a plus de kilomètres et de kilomètres de routes en mauvais état? Et nous avons des milieux de jeunes que nous n'utilisons pas. Alors que si nous pouvons mettre à leur disposition quelques outils rudimentaires ou bêches et autres, ils peuvent bien réhabiliter certaines routes et même entretenir. Et là, moi, je voudrais bien que l'on puisse un peu revoir le fonaire. Moi, je ne suis pas très... Je ne vois pas bien... l'efficacité du Foner dans la manière dont elle est gérée aujourd'hui, où elle est structurée. J'aurais voulu qu'on puisse donner à des ONG la gestion de certaines routes, c'est-à-dire la réhabilitation et l'entretien. Et là, vous verrez qu'il y aura des milliers et des milliers de jeunes qui peuvent être employés dans ce domaine-là. Voilà un peu ma petite contribution.
Merci beaucoup, Eddy. Vous estimez que le problème de l'emploi de la jeunesse commence d'abord par la formation. Il y a un déficit en termes de formation. Il n'y a pas de jeunes qui sont assez formés dans le métier. Il y a des techniciens, il n'y en a pas. Ça se pose problème aujourd'hui. Vous avez donné l'exemple du Katanga où il y a beaucoup d'entreprises minières, mais qui ne peuvent pas rencontrer de jeunes qui sont formés pour différents travaux. Vous estimez qu'il faut d'abord revoir les systèmes de formation, permettre aux jeunes d'être formés et comme ça, ils pourront être utilisés sur terrain. Mais deuxièmement, il y a aussi des initiatives, par exemple dans l'entretien des routes, réhabilitation entretien, nous avons tellement plus de 150 000 km. Si on pouvait donner aux jeunes des outils même rudimentaires pour leur permettre d'entretenir les routes dans les milieux où ils sont, même à la mer, avec des bêches, ça peut résoudre le problème du chômage des jeunes qui peuvent être payés. Vous avez évoqué le Foner, soit on peut évoquer en passant que le Foner, vous l'avez dit, mais c'est juste un service qui mobilise les fonds et qui finance l'entretien des routes. Lui-même n'entretient pas directement, mais il finance ceux qui entretiennent les routes. Vous estimez qu'on doit revoir la manière dont le financement s'est fait, ça peut aussi permettre aux jeunes d'être assez utilisés. Merci beaucoup, Eddy, de Lubumbashi, Galvani, Mbujimayi, au Kasai Oriental. Bonjour.
Oui, bonjour, M. Pierrot. Bonjour à tous.
Vous avez suivi la structuration de l'intervention de notre ami Eddy, qui estime que d'abord, il faut commencer par la formation des jeunes, former des jeunes dans les différents domaines de métier, ce qui va leur permettre d'avoir accès facile à l'emploi sur terrain. Quel est votre point de vue?
D'accord, merci pour la parole. Concernant d'abord, je commence par saluer d'abord l'idée du chef d'État de la sous-région, parce que vous savez, la problématique de l'emploi des jeunes constitue vraiment une perspective pour non seulement pour la RDC, mais pour le pays africain surtout. Pourquoi pas aussi dans le monde. Parce que vous savez, ici, la jeunesse constitue vraiment une grande partie, une grande part de la population. Et or, si cette grande part de la population est inactive, vous voyez déjà comment le pays sera vraiment pénalisé. Alors, comment faire pour vraiment lancer ou dynamiser l'emploi de jeunes? D'abord, l'État congolais doit mettre en place une bonne politique d'emploi qui commencera d'abord par la formation. D'abord, la formation doit être adaptée aux besoins du pays. On doit d'abord mettre que le pays a besoin de quoi? Le pays a besoin pour d'autres, dans tel domaine, nous avons besoin de tel nombre de travail pour relever peut-être tel défi. Alors, en fonction de ça, on doit commencer à adapter la formation de jeunes par rapport aux besoins du pays. Mais malheureusement, la formation de l'RDC a toujours des petits problèmes. Aussi, on doit adapter les programmes de l'enseignement en fonction de qu'on ne puisse mettre pas les jeunes en position de demandeur d'emploi, mais pour le permettre aussi à la fin de leurs études qu'ils soient directement offreurs d'emploi aussi. Et ça, un peu, il faut que non seulement que aussi les entreprises, mais lancer aussi les entreprises, et aussi mettre en place des petites et moyennes industries. Les petites et moyennes industries, peut-être parce que nous avons, c'est peut-être même des fruitiers ou des fruiteries, je vous laisse dire. Donc, ils peuvent, aider les jeunes à faciliter un peu la résorption du chômage. Parce que le chômage en RDC, je peux prendre peut-être les taux ici au Kasaï Oriental, les taux de chômage constituent 71%. Alors, vraiment, ici, vous voyez, ce sont des jeunes qui manquent quoi faire. Et partout, vous trouvez, c'est pourquoi il y a de la délinquance juvénile, il y a de l'insolence, tout ça. C'est parce qu'il n'y a pas une bonne politique d'emploi concernant les jeunes. D'abord, si on essaie d'adapter la formation, vraiment, des jeunes, et par rapport aux besoins du pays, et aussi adapter la formation, non seulement pour mettre les jeunes en fonction, en position de demandeur d'emploi, qu'on puisse aussi leur permettre d'être les offres d'emploi. Ça va être un peu de résoudre quand ça fait le problème du chômage.
Merci beaucoup, Galvani. C'est important. J'ai essayé de réfléchir, n'est-ce pas, de dégager quatre points dans votre intervention. Il y a d'abord la formation qui doit être axée sur les besoins. Les pays doivent se demander et je dois former qui, pourquoi, pour quel besoin. Et là, on doit adapter le programme de l'enseignement en fonction de ça, mais ne pas former les jeunes pour qu'ils soient les demandeurs d'emploi. Vous estimez qu'on doit les former, la formation doit être adaptée pour permettre aux jeunes eux-mêmes, quand ils terminent, de pouvoir créer de l'emploi. Il faut la relance des entreprises publiques, des entreprises de production en province, dans tous les milieux, ce qui doit permettre à ce que les jeunes soient engagés, mais aussi l'État doit investir dans les initiatives des PME, petites et moyennes entreprises, qui puissent permettre à ce que, quand elles sont développées, ces PME peuvent absorber le chômage. Merci beaucoup, Gazani, pour toutes ces propositions. Vous êtes en Boujimaï, au Kassai oriental. Thomas, vous êtes à Lubumbashi, au Katanga. Bonjour.
Oui, M. Pierrot, bonjour. Bonjour aux auditeurs également.
Vous avez suivi les uns et les autres. C'est important ce qui a été dégagé tout à l'heure. Eddy est revenu sur la formation. La même chose avec Galvani, qui estime que le programme scolaire tel que nous l'avons aujourd'hui, on a négligé beaucoup plus la formation en ce qui concerne les métiers, ce qui fait que beaucoup de gens qui sont formés ne sont pas en mesure ni de créer de l'emploi, ni pouvoir même accéder à l'emploi, parce que les besoins sur le terrain, il est tout autre que ce que la formation que les gens ont reçue. Alors, qu'est-ce qui doit être fait pour améliorer, permettre aux jeunes d'accéder à l'emploi, Thomas?
Voilà, merci beaucoup. D'abord, tout est l'objet de la volonté politique. Je pense que vous savez que les pays, c'est bien sûr les pays qui doivent, bien entendu, prévoir tout ce qui doit être fait. Mais selon le cas de cinq chantiers qui ont été annoncés en 2006 par le chef de l'État, disons ceci. Est-ce qu'avant d'instaurer ces programmes-là, qu'est-ce qui a été préparé pour l'encadrement des jeunes qui vont travailler? Vite, on a fait recours aux étrangers pour venir travailler, alors que tout devrait d'abord commencer par préparer les Congolais, les jeunes d'ailleurs, qui normalement devraient déjà, parce que les cinq chantiers ont presque parlé de tous les secteurs de la vie des Congolais, mais voyons, ce cas, ça n'a pas pris beaucoup de temps aux Congolais. C'est la raison pour laquelle on voit aujourd'hui tous les travaux qui sont tous les travaux qui sont, bien entendu, envisagés d'être faits dans les différentes villes sont déjà bloqués. Vous allez voir un projet de 3 ans, vont jusqu'à 10 ans, vont jusqu'à 5 ans, parce que le fait de recourir à la main-d'œuvre étrangère cause beaucoup de problèmes. Quand les amis ont parlé de l'impréparation, c'est-à-dire de la non-formation des différents jeunes, ils n'ont pas honte. Cela est vrai. Parce que les différents domaines qui sont chez nous, et ça sont les domaines seulement de rester dans les bureaux, et non pas les domaines pouvant techniquement former les gens. Alors que c'est ce qui est aujourd'hui important. Quand une population, une jeune population est formée, c'est une partie technique, et donc le pays a une recherche. Parce que comment nous voyons aujourd'hui, nous avons trop de minerais, mais qui ne sont pas exploités. Pourquoi? Parce que les jeunes congolais ne sont pas informés ou formés sur cette matière-là. Alors, ce que moi je peux d'abord demander pour ce sujet, c'est quoi? Que notre pays ait, que nos dirigeants aient une volonté politique pouvant faire avancer la jeunesse, et non pas parce que, ici à Lubumbashi, il y a des jeunes qui se débrient de part et d'autre, ceux qui font le cambisme, mais dérangés par les différentes taxes, par les différents impôts. Quelqu'un qui est en train de trader ses francs en changeant par les dollars, mais tous les jeudis, Salongo, et on commence à amener les tablettes à la commune, les tablettes à la mairie. Et les gens qui se mettent en cours de route pour avoir à la fin du mois quelque chose sont souvent dérangés, sont souvent embrayés par les différents services de l'État. Donc, à cela, je peux demander à l'État aussi, parce que la jeunesse n'est pas encadrée. Vous allez voir un licencié, un gradué, un ingénieur, mais qui n'a pas une société dans laquelle il peut travailler. Tout cela parce que l'État congolais n'est pas à mesure
Merci Thomas, c'est important ce que vous avez dit. Notre invité a fait déjà son entrée dans ce studio, Monsieur Polydor Tanguele, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes psychologue du travail et enseignant. Alors, là on se communique bien, vous m'entendez bien, sans problème. Voilà. Nous débattons avec les auditeurs autour de l'accès de la jeunesse à l'emploi dans notre pays. Cela est parti de ce sommet qui s'est tenu à Nairobi au Kenya, le chef d'État de la CIRGL qui s'est réuni pour réfléchir sur l'accès à l'emploi dans la sous-région. Qu'est-ce qui doit être fait pour permettre aux jeunes de pouvoir accéder à l'emploi? Voilà le centre de notre échange de séjour avec les auditeurs de Radio Capi. Peut-être pour vous rappeler, vous avez peut-être eu l'occasion de suivre déjà depuis le début de l'émission, c'est que quelques auditeurs ont dit, il se pose un problème, les déficits dans la formation, les déficits dans la formation. Il y a le problème de la formation qui n'est pas adaptée pour permettre aux jeunes de pouvoir accéder à l'emploi, ni même permettre aux jeunes de pouvoir créer l'emploi. Mais bien avant peut-être d'analyser ce que les auditeurs ont dit, vous qui êtes dans le domaine du travail, quelle est la situation aujourd'hui sur le terrain en ce qui concerne la jeunesse active aujourd'hui en RDC par rapport à sa présence sur le marché de l'emploi?
La situation se présente de la manière que voici. Comme beaucoup d'auditeurs l'ont constaté, il y a la part du marché qu'occupe la jeunesse est vraiment moins significative. Mm-hmm. Elle ne représente rien, raison pour laquelle aujourd'hui les autorités dont vous avez parlé ont fait état de la question et ils en ont fait un problème de politique de la sous-région, de politique au niveau régional. Mm-hmm. C'est vrai que les chiffres sont des chiffres déjà obsolètes, hein, que nous ne pouvons pas présenter ici, mais il faut reconnaître que nous sommes en dessous de la moyenne. Malgré les efforts qui sont fournis, nous sommes vraiment en dessous de la moyenne, et que l'effort à fournir est d'abord de pouvoir dépasser les caps de la moyenne. Mmh. Les caps de la moyenne. Mmh. Le taux de chômage est tellement élevé qu'au jour d'aujourd'hui, on s'est dit, est-ce qu'il y a un effort qui est vraiment fourni? Et une telle émission est la bienvenue. Pourquoi? Puisqu'elle essaye de booster non seulement les chômeurs eux-mêmes, mais aussi les décideurs, les autorités politiques, comme je l'avais dit.
Mais à quoi on attribue un peu ces taux de chômage élevés? C'est parce qu'il n'y a pas d'initiative pour créer de l'emploi? C'est parce qu'il n'y a pas d'entreprise? C'est parce que l'État n'initie pas? À quoi alors est attribué ces taux de chômage élevés?
Voilà, mon cher ami, j'ai une approche quelque peu révolutionniste lorsque j'aborde la question relative au chômage. En fait, j'ai suivi beaucoup de vos auditeurs, ils ont une réaction extra-punitive. On pense ici que la responsabilité du chômage incombe au pouvoir organisateur seul, alors qu'en matière de chômage, en matière du travail, la responsabilité est, moi je la situe à trois niveaux. Il y a d'abord le niveau individuel. Mmh. Que fait la personne pour qu'il puisse ne pas être chômeur? Pour qu'il puisse pas être chômeur. Ça, c'est d'abord la grande question. Mmh. Puisqu'au fait, le travail valorise d'abord l'homme, l'individu lui-même. Et que fait cet homme pour ne pas être chômeur? Au deuxième niveau, je situe la responsabilité au niveau familial. Mmh. Quel accompagnement la famille offre à son enfant, à son membre de famille, pour qu'il soit employé, pour qu'il puisse occuper un emploi à moyen, à long, à court terme, comme vous le voulez. Et ce n'est qu'alors que la responsabilité devient une responsabilité que je qualifie de socio-communautaire, mm-hmm, et qui relève des prérogatives du gouvernement, des prérogatives du pouvoir gestionnaire. Mm-hmm. Alors, parlons du niveau individuel. Beaucoup de personnes font des études sans se connaître eux-mêmes. Ils coulent au gré des vagues, comme j'ai l'habitude de le dire. Ils abordent certaines filières sans savoir les débouchés de cette filière, sans faire une autocritique qui confronte leurs aptitudes par rapport aux exigences de l'emploi. Mmh. Et beaucoup de personnes aujourd'hui évoluent comme va jeter le pouce sans un projet professionnel. C'est qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai 12 ans, je dois avoir un projet professionnel qui a comme contenu que je puisse avoir l'image de ce que je vais faire après 10 ans. Et c'est ce projet professionnel qui va déterminer le choix d'option que j'aurai à faire, le choix d'amis avec lesquels je vais m'entourer. Donc, tant d'autres éléments, une auto-évaluation des compétences,
Donc, au plan individuel, il y a beaucoup à dire. Mmh. Mais il y a aussi au plan familial. Aujourd'hui, nos parents ont pratiquement, se sont désengagés de leur responsabilité d'accompagner leurs enfants. Les enfants évoluent, puisqu'influencés par les amis, influencés par les médias. Dites-moi aujourd'hui, vous pensez que tout celui qui a fait le droit avait vocation de devenir juriste? Je ne pense pas. C'est plus qu'on a vu un maître qui a une jupe et on a écrit que... Mais on n'a pas eu le même aptitude que ce maître-là. Mmh. Et la famille ne vous a pas accompagné. Le parent, la famille joue un rôle important lorsque l'enfant doit faire le choix d'une filière. Mmh. Voilà pourquoi dans les pays occidentaux, les familles sont accompagnées par des psychologues qui essayent de donner des orientations aux enfants. Et ici, dans l'État, il y avait, on avait institué depuis les années 80 le département d'orientation scolaire et professionnelle. Mm-hmm. C'était pour cette raison, pour pouvoir accompagner la personne, pour qu'on n'obtienne pas un diplôme et qu'on cherche alors ce qu'il faut faire.
Mm-hmm. Et sur le plan socio-communautaire,
mm-hmm. ça rejoint pratiquement la responsabilité du gouvernement, pas seulement du gouvernement, la responsabilité de la société civile, mm-hmm. la responsabilité de toute la superstructure qui organise la société en matière d'emploi. Et là, ça rejoint pratiquement tout ce qu'ils ont dit. Il faut analyser les besoins, analyser les tendances. L'autorité doit détenir les taux de chômage, élaborer des programmes par rapport aux besoins. Mm-hmm. C'est comme au lendemain de l'indépendance. On s'était rendu compte qu'on avait une carence d'intellectuels. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait former des enseignants qui devaient à leur tour être disséminés à travers le pays, mm-hmm. et former des personnes. Puisqu'on devait faire une couverture élargie de l'enseignement. Alors, on a orienté l'enseignement vers la pédagogie. Et il y a eu des ISP par-ci, par-là. Mais est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, devons-nous continuer dans cette perspective par rapport à la situation? Si on déclare l'État congolais comme un État de reconstruction, et sur ce point, il y a des chantiers qui sont ouverts par ces
états. C'est ce que disait tout à l'heure Thomas Dimbashi, qui avant même de déclencher, il fallait d'abord agir en amont, c'est-à-dire former des gens qui devaient en principe être utilisés pour ces chantiers, mais malheureusement ça n'a pas suivi.
Effectivement. Donc, il y a l'analyse des besoins en amont, mm-hmm. mais il y a aussi les orientations. Les besoins doivent être confrontés à la vision du gouvernement, à la vision nationale par rapport à l'emploi. Mm-hmm. Nous voulons avoir quel type d'informaticien au Congo? Nous voulons avoir quel type d'enseignant au Congo? Donc là, au niveau du système éducatif, il faut un effort de révision. Mais mm-hmm. le mal, c'est que la réforme, nous avons de belles réformes, mais qui ne sont pas suivies d'une bonne exécution. Mm-hmm. Et si je vous balance les différents textes de réforme, vous serez déçus de voir dans quelles conditions nous sommes. Dans quelles conditions aujourd'hui il y a le chômage. Donc ça fait qu'il y a une certaine disharmonie à tous les niveaux. Mmh. Au niveau individuel, nous avons des gens qui ne savent pas ce qu'ils sont appelés à faire, qui n'ont pas encore détecté la place qu'il leur faut dans la communauté. Mmh. Quelqu'un qui a fait la médecine et qui préfère rester à la maison alors qu'il y a des postes vacants à l'intérieur du pays. On a voulu devenir médecin, pour quelle raison? On aurait dû faire le commerce. Puisqu'au fait, la vocation première du médecin, c'est d'abord de soigner. Mm-hmm. C'est d'abord de développer cette sympathie vis-à-vis du malade. Mais aujourd'hui, c'est d'abord l'argent. Donc, il y a un effort au niveau individuel sur le plan psychologique.
Important.
Un accompagnement de la famille, puisque la famille est la cellule mère. Mm-hmm. C'est la famille qui détecte les premières aptitudes de l'enfant, et qui doit l'accompagner. Et déjà à ce niveau, il y a un raté, et le niveau socio-communautaire reçoit tous ces ratés et
malheureusement, ne s'en sort pas, et c'est ce qui justifie le taux très élevé du chômage.
Merci beaucoup. C'est important ce que vous avez dit. Je crois aussi que les auditeurs ont suivi les précisions avec notre invité, David, vous êtes ici à Kinshasa, Adrien à Kimpe, c'est dans le Bas-Congo, Silvano à Benatanda. Benatanda, c'est au Kasaï oriental. Nous faisons le point sur le chômage, n'est-ce pas, l'emploi, l'accès de la jeunesse à l'emploi, ça marge de ce sommet qui se tient à Nairobi, les chefs d'État de la CIRGEM qui se réunissent pour réfléchir à comment donner l'emploi aux jeunes dans la région. Et nous revenons à RDC, qu'est-ce qui doit être fait concrètement? Beaucoup de propositions depuis le début de cette émission. Je rappelle encore le numéro d'appel pour intervenir en direct, 081-890-4969.
Votre connexion internet est trop lente? RadioOkapi.net vous propose un service gratuit. Les alertes mail. Toute l'actualité de la RDC, le sport, la politique, l'économie, la culture et les offres d'emploi. Faites votre choix, vous recevrez chaque soir les infos dans votre boîte mail. Les alertes mail, c'est gratuit. RadioOkapi.net à votre service.
David, vous êtes ici à Kinshasa, dans la capitale. Bonjour.
Bonjour, Piero. Bonjour aussi à l'invité. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Capé.
Voilà. On vous écoute, David. Qu'est-ce qui doit être fait pour faciliter à la jeunesse d'accéder à l'emploi dans notre pays?
Oui, merci beaucoup, M. Piero. La première des choses, c'est de faire en sorte que les gouvernements congolais puissent retraiter tous les anciens. Parce que qu'est-ce que j'ai pu constater? Il y a aujourd'hui beaucoup de jeunes qui sortent dans des universités, mais ils se posent un problème pour se trouver de l'emploi. Et dès qu'ils vont terminer les études, vous allez voir qu'il y a plus de gens qui ont fait 30 ans, 40 ans dans les services sans toutefois être retraités. Or, si ces jeunes sont retraités, ça peut se permettre en sorte que les jeunes puissent avoir de l'emploi, puissent s'embaucher. Mais encore, qu'est-ce que j'ai pu constater? Vous allez voir encore, moi je suis de la province de l'Équateur, je suis ici dans les Vancas, je suis aussi enseignant, professeur dans la ville de Mbandaka. Et vous allez voir que aujourd'hui, même pour les orientations dont l'invité vient de parler aujourd'hui, prenons le cas pour les gens qui vivent à l'intérieur, même s'il faudrait orienter l'enfant, vous allez voir que dans des territoires reculés comme Ngendi, il n'y a qu'une seule option. Cette option pédagogique qui est là. Et même avec nous qui sommes en Banda, comme vous allez voir, il y a certaines options techniques, mais l'enseignement est très théorique. Vous allez voir, il y a une option technique, mais qui manque de matériel. À quoi sert bon cette option-là? Si je demandais, et puis il y a encore un problème, il y a des gens qui mettent les offres d'emploi, mais dans les offres d'emploi, non, il faut avoir autant d'expérience. Je ne sais pas si on est avec expérience ou soit l'expérience en l'acquiert. Et c'est pour qu'on puisse mettre fin à cela, il faut aussi que le gouvernement congolais puisse avoir une certaine responsabilité de poursuivre, de voir lorsqu'il y a une offre d'emploi, de permettre aussi aux jeunes qui viennent de terminer leurs études d'avoir cette chance-là pour s'en procurer de l'emploi, sans toutefois mettre d'abord leurs critères-là de dire il faut avoir telle expérience. Il faut aussi que les gens puissent se former. C'est que vous affichez un offre d'emploi, que les afficheurs des offres d'emploi prennent soin de former premièrement ces jeunes qui viennent terminer les universités. Et encore, pour les écoles, que le gouvernement congolais puisse réduire un peu les taux pour certaines options, notamment la pédagogie, biochimie, maths, physique, et donner un peu plus la chance, un pourcentage élevé pour les options techniques, et d'appliquer la pédagogie de l'intégration. C'est-à-dire de ne plus seulement se baser dans la théorie, mais passer de la théorie à la...
Merci beaucoup, David. Merci, David. Vous êtes ici à Kinshasa en séjour, bien sûr, vous enseignez en Bandaka. Vous avez insisté sur la disponibilité, n'est-ce pas? On peut avoir les aptitudes pour suivre un tel domaine, mais qui n'est pas dans ce milieu. Je me rappelle encore, dans les années, il y avait dans des provinces où vous n'avez que l'ISP, par exemple, les l'ISDER, il n'y a pas autre chose. Et tout le monde qui termine l'école secondaire est obligé soit d'aller à l'ISP, soit d'aller à l'ISDER, parce que ce sont les deux institutions supérieures qui sont disponibles. Il se pose un problème des options, mais quand bien même il y en aurait dans des villes, hein, des sections techniques qui n'ont plus de matériel, il y a tout ça, il y a les problèmes d'exigence professionnelle qui frappent beaucoup de jeunes qui n'ont pas 5 ans, 10 ans, mais qui ont terminé les études qu'ils voudraient bien terminer. Tout ça doit être harmonisé. Merci beaucoup, David. Adrien, vous êtes à Kimpese. Bonjour.
Oui, bonjour.
Oh, pourriez-vous arrêter, Adrien, votre poste récepteur parce qu'il y a un écho sur les antennes. Ça ne va pas permettre à ce que nous puissions bien communiquer. Je pouvais arrêter le poste récepteur comme ça, présenter votre argumentaire. On vous écoute, Adrien.
Ça va maintenant?
Oui, c'est très bon. Vous pouvez aller maintenant.
Oui, en tout cas, là, je voudrais simplement commencer sur le point de vue de David, hein, parce que ça m'a dit que j'avais presque David a déjà vidé. Je vais seulement soutenir David pour dire que, en tout cas, sur deux points que David a suggérés, c'était le premier point sur le pension, le retraité. Là, l'État doit avoir vraiment une très bonne politique réelle sur les pensions. Je crois que c'est parmi deux effets négatifs sur les sujets d'aujourd'hui. Et vraiment, c'est pour ne pas aller longtemps, parce que David a dit. Donc, je soutiens David par rapport à ce qu'il a.
Merci. Merci beaucoup, Adrien. Vous insistez beaucoup. Hein. C'est en fait, si on peut regarder par exemple à la fonction publique, vous verrez qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà atteint l'âge de la retraite, mais qui sont encore là, Ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne sait pas recruter à la fonction publique. Si l'État pouvait définir la politique pour la mise en retraite des agents fonctionnaires de l'État, il y a moyen de pouvoir le remplacer par la jeunesse qui termine les études. Merci beaucoup. À Sylvano, vous êtes à Benakanda, au Kassai Oriental. Bonjour.
Bonjour, Gilles.
Non, c'est Pierrot. Vous avez suivi les uns les autres pour
vous. Oui, Pierrot, j'ai suivi les interventions de chacun, mais je vais commencer par répliquer d'abord sur ce que l'invité vient de dire.
Oui.
Il met plus l'accent sur la vocation et sur l'encadrement de la famille. Mais je voulais lui dire que la vocation dont il parle, il doit savoir que les anthropologues disent l'homme est un produit de la culture et non de la nature. Si on peut seulement tenir compte de nos capacités innées, vraiment, on ne fera rien. Et puis, il met l'accent sur l'encadrement de la famille, mais la famille doit encadrer les enfants sur base d'un modèle. S'il n'y a pas de modèle, qu'est-ce que la famille dira à l'enfant? L'enfant doit constater le modèle. Il lui dit non, tu dois travailler aussi longtemps que l'enfant voit ce qui travaille et non rien. Par exemple, là où je suis ici, moi je suis enseignant là-bas à Kinshasa, je suis ici pour quelques raisons. Quand je suis ici, vous dites à l'enfant que non, il sera enseignant, il voit que l'enseignant est dans une vie, même une vie de misère. Qu'est-ce qu'il fera? Il trouvera que ce que la famille lui a dit, c'est la vérité ou bien la famille est en train de lui envoyer dans l'enfer. Voyez-vous? Je voulais parler sur ce qu'avait dit le premier intervenant de Lubumbashi. Lui parlait, mais il mettait en cause la formation de nos jeunes. Mais je veux lui dire que, bien sûr, mais même s'il y a ceux qui sont incompétents, mais les déjà compétents sont là. Je prends l'exemple de Kinshasa. Prenons la commune de Ngaliema. En passant par sur l'avenue Mundiba, toutes les écoles qui sont là, allons du côté qu'on passe du côté qui se compare, parce que je sais que le premier secteur qui engage plus au Congo, c'est l'enseignement suivi de la médecine et de l'armée, je pense. Dans l'enseignement, M. Pierrot, hein, vous verrez que dans toutes ces écoles-là, aucune école ne demande moins de 150 dollars comme frais scolaires. Mais, si on est dans toutes les écoles-là, vous verrez que non, l'enseignant qui touche plus de 120 dollars, il est très difficile. Et les enseignants qui sont là, on les permet, on l'envoie année par année. Aucun d'entre eux n'a un contrat à durée indéterminée. Même un contrat à durée déterminée, il n'y en a pas. Je ne sais pas si vous me suivez.
Vous êtes sur les antennes, on vous écoute, Sylvain. Oui.
Alors, avec tout ça, vous verrez que non, l'enseignant n'est pas encadré. Les écoles font entrer beaucoup d'argent. Ce sont de grandes entreprises. Mais ils traitent des enseignants comme s'ils n'avaient pas de valeur, comme s'ils étaient leurs esclaves. Là, nous ne pouvons pas seulement remettre en cause la formation des enseignants. Non, les jeunes ont bien formé son enseignant dans l'enseignement, mais le patron, le promoteur, les réserve un mauvais traitement. Je vais terminer par ce qu'avait dit l'intervenant de Mujimaï.
Oui.
Galvani, hein?
Oui, Galvani, oui.
Galvani avait parlé qu'il faudrait que nous, on doit former des gens en perspective de créer de nouveaux emplois. Mais moi, je suis parce que je suis, en plus de dans l'enseignement, je suis journaliste parce que j'ai fait l'UPEN, j'ai fait SICA, l'UPEN, l'université en soins pédagogiques là. Mais vous verrez que bon, monsieur, le nouveau secrétaire de Kassongo Chimoundé, qu'est-ce qu'il disait? Finalement, l'environnement médiatique est spolié. Il y a beaucoup de chaînes de radio, beaucoup de chaînes de télévision. Donc, tout celui qui termine doit créer. Et en créant, on va vraiment, on va inonder l'environnement médiatique et puis les recettes ou les entrées ne seront pas comme ça devait être, vous voulez dire. Hein? On doit former des jeunes toutefois.
Merci Sylvano, on a suivi, hein, vous avez vraiment presque bien suivi vraiment l'émission depuis le début. Vous avez porté vraiment un regard critique, hein, sur les propos de tous les intervenants avant vous plus de notre invité. Cela veut dire que vous dressez ce tableau de couragement. On pourra demander à notre invité de réagir rapidement. Kabacha, Gustave et Franck, vous gardez la ligne le temps que notre invité puisse réagir pour leader Tanguele. Vous avez suivi notre ami de Benakanda, Sylvano, il est presque découragé parce qu'il dit que ce soit sur le plan individuel, mais l'enfant évolue dans un environnement où il voit que ceux qui sont devant lui dans un tel ou tel domaine ne sont pas à mesure de subvenir à leurs besoins. Alors il voudrait, s'il voit à côté de lui un informaticien qui vit bien, autant mieux faire l'informatique, voilà un peu. Moi je me dis tout à l'heure, en écoutant les auditeurs, ça veut dire que nous avons un problème, c'est un cadre de réflexion sur la problématique de l'emploi. Est-ce que nous avons le cadre de réflexion aujourd'hui pour aborder toutes ces questions d'une manière froide, dont se regarde le pouvoir public, la société civile, les psychologues du travail, pour dire réfléchissons de quelle manière nous voulons orienter l'emploi dans notre pays. Est-ce que ce cadre existe? Y a-t-il des discussions autour de ça?
Oui, le cadre existe et d'ailleurs, il y a les conseils nationaux de l'emploi qui... En fait, les structures ne manquent pas au Congo. Nous avons même tout un gouvernement qui traite de l'emploi au quotidien. Les structures ne manquent pas. Mais faut-il encore savoir, ceux qui discutent, quelles sont leurs priorités?
Mm-hmm.
Vous comprenez? Quelles sont les priorités qui sont mises à l'ordre du jour pendant les grandes discussions? Quand nous allons, par exemple, à Genève, de quoi nous parlons? Vous comprenez? Quand nous avons un interlocuteur comme BIT, qu'est-ce que nous voulons obtenir de lui? Mm-hmm. Donc, c'est à ce niveau. Et des pareilles questions ne sont généralement pas des priorités. Et en plus encore, il n'y a pas une synergie, une bonne coordination des structures. Par exemple, aujourd'hui, cette problématique, vous voyez qu'elle aborde plusieurs structures à la fois. Il n'y a pas que le ministère de l'Emploi, il y a les renseignements primaires, oui, secondaires et universitaires, il y a aussi le portefeuille, donc... C'est tellement multisectoriel que, au jour d'aujourd'hui, les choses se font de façon désarticulée et il y a un manque de coordination.
Mm-hmm.
Voilà. Je reviens un peu aux différentes préoccupations.
Rapidement pour qu'on écoute les trois autres auditeurs. Oui.
Mon cher ami qui a parlé de retraiter tous les anciens, jamais. On n'a jamais vu un pays où on peut retraiter tous les anciens. Surtout que nous sommes dans un pays où il y a plusieurs années qu'on n'a pas recruté. Aujourd'hui, ce qui est recommandé, c'est une mise à la retraite rationnelle.
Mm-hmm.
On ne peut pas vider notre administration de toute cette matière grise qui, bien que dans de mauvaises conditions, a travaillé, mais a une certaine praxis qu'il doit transmettre à des nouveaux pour qu'il y ait continuité des compétences et continuité de la culture d'entreprise. Donc, recruter tous les anciens, c'est vrai qu'il y a de ceux qui sont éligibles, mais je recommande plutôt une mise à la retraite rationnelle. C'est qu'il y ait un petit nombre qui reste pour encadrer les jeunes.
Mais pour permettre à ce petit nombre d'avoir cette bonne volonté d'encadrer la jeunesse, il faudrait d'abord qu'elle-même soit dans des conditions. Vous voyez, quand vous dites à un vieux que vous allez à la retraite, tout de suite, il y a des jeunes qui vont venir, que vous allez encadrer pendant une année, et si d'abord lui-même, il sait que la retraite, c'est une façon aussi de m'envoyer facilement à la souffrance. Il y a un problème, c'est que l'État doit réfléchir autour de tout ça. Comment on envoie les gens à la retraite pour qu'ils aient la volonté d'encadrer peut-être les jeunes à tout ça.
Mais vous me rejoignez en parlant de la mise à la retraite rationnelle.
Mm-hmm.
On met à la retraite de façon rationnelle par rapport au financement aussi de la mise à la retraite.
Mm-hmm.
Puisqu'aujourd'hui, si le gouvernement est bloqué, il ne sait pas mettre à la retraite les gens, c'est qu'il n'a pas de fonds disponibles.
Et là, il n'aura pas fait preuve de rationalité.
Oui.
En même temps, donc, ça fera en compte non seulement les espaces à créer, mais il y a aussi l'aspect, le coût financier qui devra prendre en charge la mise à la retraite.
Vous avez ajouté quelque chose rapidement, oui.
Un autre a voulu parler de l'expérience. Mon cher ami, c'est un élément qui bloque aujourd'hui
les jeunes.
Beaucoup de jeunes. Les offres d'emploi sont généralement passent au filtre de l'inspection générale du travail. Et à travers les provinces, il y a des représentations. Les entreprises qui mettent comme, qui retiennent comme critère l'expérience sont des entreprises de mission. Par exemple, la notion de l'expérience acquise est venue au début des années 90, lorsque nous avons vu des organismes occuper la part du marché, ils viennent pour une mission quelconque. On ne peut pas prendre un jeune de 9 ans pour aller jouer au mondial, non. Ils viennent pour résoudre un problème ponctuel. Et pour cette raison, ils ont besoin de personnes expérimentées. Et à ce moment-là, les Congos n'en manquaient pas. Les Congos n'en manquaient pas. Mais ceux qui engagent aujourd'hui ne sont pas que les entreprises,
les organismes internationaux qui viennent pour des missions précises.
Il y a des investisseurs qui viennent. Des investisseurs qui, par exemple, à la radio au Capitole, il a choisi des jeunes journalistes. Des jeunes journalistes qu'il a formés à son goût. Il n'a pas eu besoin d'aller recruter les anciens de la RTNC pour venir les remplir ici. Non, il a formé à son goût. Donc, ça dépend de quelle porte tu toques. Tu toques, dis-moi où tu toques et je te dirai pourquoi il a mis ces critères. Donc, ce n'est pas une raison lorsqu'on cherche un emploi d'avancer plus la raison de l'ancienneté. C'est plus dans des entreprises de mission. La responsabilité du gouvernement par rapport à l'expérience, c'est vrai que
c'est quand même un œil du pouvoir.
L'œil du pouvoir et beaucoup de job description passent au peigne fin de l'inspection générale
du travail.
Le problème de vocation, je n'ai pas parlé de vocation, je parlais de l'élaboration d'un projet professionnel. Et un projet est toujours rationnel, faisable et réalisable. C'est-à-dire, vous avez une vocation, vous avez une aspiration, mais vous devez confronter cette vocation à la réalité.
Donc,
l'élaboration d'un projet professionnel est faite sur base d'une approche contextuelle.
Oui.
On recourt à la conjoncture, disons. Donc, on ne le fait pas vite et vite. J'ai rêvé d'être astronaute, je suis au Congo et je tiens à devenir astronaute. Mon cher ami, tu ne deviendras jamais tant que tu es au Congo.
Un mot rapidement, si vous avez une chose à ajouter, parce qu'il y a encore trois auditeurs qui sont sur la ligne là, oui.
Oui, le problème de création d'emploi, effectivement. Lorsqu'on parle du chômage, la notion du chômage renvoie à la population active. Et la population active n'est pas seulement composée des employés. Elle est composée aussi de ceux qui ont des initiatives, des créateurs d'emplois.
Mais faut malheureusement, qu'on puisse leur faciliter la tâche de pouvoir créer des emplois.
Oui, on doit leur faciliter, c'est-à-dire qu'il faut assainir l'espace socio-économique, mais pas seulement ça, mais il faut aussi au niveau des filières de formation essayer d'inscrire des enseignements qui initient à l'entrepreneuriat, qui initient effectivement.
Voilà, c'est ce qui a été évoqué.
Malheureusement, depuis tous ces temps, on nous a inculqué la mentalité de la bureaucratie. Il y a aussi un effort à assainir les mentalités. On nous a préparé à la bureaucratie et quelqu'un qui a fait l'agronomie peut vouloir travailler à la FAO dans un bureau sur le boulevard ici, au lieu d'aller travailler. Dans...
Voilà, c'est pour paraphraser, je crois, le monsieur Tumbalaba, le secrétaire permanent de la CIAG, qui a évoqué d'ailleurs, il a dit ça. Pour lui, il pense qu'il serait mieux aujourd'hui pour que ces pays, qu'on puisse avoir des politiques et des structures qui puissent initier les jeunes à l'entrepreneuriat, plutôt que laisser les jeunes à tout moment toquer des portes dans les organismes pour chercher de l'emploi. Merci beaucoup. Kabacha, vous êtes à Bukavu, Gustave nous appelle de la Belgique, ainsi que Franck qui est à Vienne en Autriche. Nous allons vous accorder la parole. 081-890-4969.
Parole aux auditeurs.
Kabacha, vous êtes à Bukavu, au sud qui vous bonjour.
Bonjour, papa.
Donc, on vous écoute. Vous avez suivi les uns et les autres, oui.
Oui, j'ai tout suivi. Je crois que de prime abord, on doit parler de travail potentiel et de l'emploi réel. Je vois que l'emploi réel que nous sommes en train de voir est vraiment très infime, très petit par rapport à l'emploi potentiel. Parce que l'emploi potentiel, c'est l'emploi à créer au Congo. Et je vois qu'il y a une multitude, des multitudes en tout cas d'emplois potentiels, en sorte que nous pouvons dire que l'emploi réel est une goutte d'eau dans l'océan de l'emploi potentiel. Donc quand on parle de ces gens-là qui ne veulent pas céder la place jeune, je crois qu'on est tenté de tourner autour du pont. Je crois que ce n'est pas ça le grand problème. Je peux parler aussi de l'environnement macroéconomique, donc de l'environnement macroéconomique et de microéconomique. Et quand on parle de microéconomique, là, la personne a tous les atouts pour changer sa vie. Mais quand on parle de macroéconomique, là, la personne n'a pas des atouts pour changer sa vie. Et je parlerai de macroéconomique, pourquoi? Parce que je crois que l'État a la plus grande responsabilité dans tout ceci, parce que c'est de lui les grands paras et c'est lui qui doit orienter tous les secteurs de la vie nationale. Et je dirais ceci en ce qui concerne l'emploi. On devrait aussi donc écouter les gens et les écouter et les former. Et la formation ne devrait pas durer beaucoup, parce que nous voyons ici au Congo, la formation dure beaucoup et aussi les programmes des Belges et les programmes des Blancs. Et je crois qu'on ne doit pas suivre ces programmes.
Merci,
on doit
merci
avoir
beaucoup,
deux programmes, un programme très court et un programme un peu allongé.
Merci.
Donc les intelligents, on les envoie dans les programmes très allongés et les moins intelligents, on les envoie dans les programmes très court, adapté aux problèmes de la vie nationale.
Merci beaucoup, Kabacha. J'ai retenu quelque chose de très important dans ce que vous avez dit. Quand vous avez parlé de l'emploi potentiel, cela veut dire, on peut dire, nous avons cette potentialité, on peut créer de l'emploi. Faut-il encore que nous puissions définir les stratégies qui nous permettent de pouvoir rendre cela réel. Mais tout doit partir d'écouter les gens. Mais il faut définir tout cela dans une politique. Merci beaucoup, Kabacha. Gustave, vous êtes en Belgique et dans quelle ville? Bonjour, Gustave.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Je suis à Brevin-la-Neuve.
Voilà, vous avez suivi les uns et les autres. Comment arriver concrètement à pouvoir traduire tous ces soucis, tout ce que les auditeurs ont dit? Comment cela peut être traduit, mis en œuvre pour réussir vraiment à résoudre le problème de l'accès à l'emploi pour la jeunesse ici en RDC?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la question. Et je pense que c'est même le résumé de tout. J'ai suivi tout le monde. Je pense que j'ai emboîté le pas du premier, du deuxième intervenant, le troisième et le quatrième, plutôt le quatrième et le cinquième.
Oui.
Mais je vais commencer directement d'abord par l'invité lui-même. Je pense, je ne suis pas du tout de l'avis de l'invité. Qui pourrait, pour mon avis, à mon avis, il doit vraiment changer un peu son échelle de responsabilité, parce qu'il commence par responsabiliser l'individu lui-même, comme l'auteur de son chômage. Il suit de la famille,
oui.
Il doit orienter, encadrer l'individu, et il termine par l'État. Je vais juste donner un exemple pour le remettre peut-être sur la bonne voie. Dans ce pays, dans notre pays en fait, j'ai grandi au Catala, à l'époque où les écoles professionnelles existaient, on les appelait des BTP.
Oui.
On a vu effectivement que les parents orientaient beaucoup plus les enfants vers ces écoles-là qui étaient des cycles courts. Et comme il y avait des débouchés, quand un enfant termine, directement il est engagé à la Gétamine, à la SNCC, ça s'est fait. Le problème aujourd'hui au pays, c'est quoi? C'est l'absence d'apport de ces écoles professionnelles.
Oui.
Et pourquoi il n'y a plus ces écoles professionnelles? Parce qu'il y a maintenant l'absence de débouchés.
Oui.
Les débouchés de ces écoles professionnelles, c'était beaucoup plus des entreprises publiques. C'est ce qui fait que, quand ces débouchés, quand la Gétamine a eu des problèmes, la SNCC a eu des problèmes, tous ces gens qui faisaient ces écoles professionnelles, les cycles courts, qui n'avaient que des brevets, avaient du mal à se réintégrer dans la société. À ce moment-là, le parent ne pouvait plus envoyer les enfants dans ces écoles professionnelles qui n'avaient plus de débouchés. Et la conséquence, c'est que
les écoles ont fermé
l'université. On se retrouve alors dans un pays où l'on a soit une masse analphabète, et de l'autre côté, on a beaucoup d'universitaires, mal formés d'ailleurs. Et la conséquence, c'est quoi? Quand un entrepreneur vient, comme vous l'avez souligné aussi, beaucoup d'interlocuteurs l'ont dit, en fait, le privé, quand il vient, c'est pour faire des bénéfices. Il a besoin de quelqu'un qui a une expérience pour commencer déjà à produire. C'est ce qui va exiger cette expérience-là. Et le privé, l'entrepreneur, quand il vient, il n'a pas besoin de 100 bureaucrates, il n'a pas besoin de 100 ingénieurs. Il a besoin de quelques bureaucrates, mais il a beaucoup plus besoin de la main-d'œuvre exécutive.
Oui.
Alors, faut-il que cette main-d'œuvre exécutive-là soit bien formée. Et quand il arrive, cette main-d'œuvre exécutive est absente. Elle n'existe pas. Et la conséquence, l'entrepreneur va importer la main-d'œuvre exécutive. Les jardiniers, les charpentiers, on les importe. Et de l'autre côté, il y a des universitaires qui deviennent chômeurs. Pourquoi ? Parce que même les cadres, les milliers, n'est pas bien assaini pour leur permettre de commencer leurs activités. Mais comme on les dit.
Ouais.
Et quand on analyse tout cela, moi je pense que la première responsabilité revient à l'État.
Uh-huh.
Le premier intellectuel a dit, les deuxièmes je pense aussi, il faut qu'on revienne à ce système-là, où l'on doit organiser les écoles professionnelles. Mais pour que ces écoles professionnelles puissent réellement fonctionner, pour qu'ils puissent avoir des gens, il faudrait qu'il y ait des débouchés. Et les débouchés de ces écoles professionnelles, c'est d'abord des entreprises publiques.
Voilà.
C'est que ce que vous avez remarqué, quand la Gécamine doit recruter, la Gécamine ne demande pas l'expérience. Parce que non seulement elle doit recruter des jeunes gens qui viennent de terminer qui viennent de quitter le banc de l'école, elle s'occupe aussi, la société s'occupe aussi de leur formation.
Mmh. Merci
donc,
beaucoup.
Quand vous analysez toutes ces choses-là, venez bien vous rendre compte que
la responsabilité, c'est au niveau de l'État.
La responsabilité de l'État.
Merci beaucoup, Gustave.
Responsabiliser les parents, oui.
Oui, mais c'est bien, Gustave, mais permettons aux enfants de pouvoir
passer. Pour envoyer son enfant dans une école professionnelle en dehors du pays où ça doit coûter cher, qu'est-ce qu'il va faire? Il faut que l'État organise ça pour que les parents puissent orienter.
Merci beaucoup,
Gustave. Les enfants viennent ces écoles-là.
Voilà, merci
et
beaucoup, Gustave. En 10 secondes, parce qu'il y a beaucoup de
discussions encore, oui. Les rencontres que les dirigeants vont faire à Nairobi, nous encourageons tout ça. Mais je pense que nous connaissons déjà les résolutions.
Voilà, c'est la politique générale soit mise en place.
Renforcement de la capacité de.
Merci beaucoup.
Voilà. Plus rien ne sera fait.
Merci beaucoup, Gustave. Nous allons aussi accorder la parole à Franck. Hein. Je crois bien qu'il va être pour nous les derniers auditeurs, le temps de pouvoir revenir dans ce studio pour conclure. Franck, vous êtes aussi à l'extérieur, vous êtes à Vienne en Autriche, vous avez suivi les uns et les autres. Il y a Gustave qui a beaucoup insisté sur la responsabilité de l'État en disant que notre invité aurait dû commencer par là plutôt que par l'individu lui-même et la société. Alors, qu'est-ce qui doit être fait, Franck, pour résoudre cette question de l'emploi pour la jeunesse dans notre pays?
Merci pour la parole, M. Thiro. Merci à l'invité. Merci à tous les compatriotes qui se sont déjà prononcés. Je crois qu'on ne peut pas confondre des domaines d'attribution.
Mm-hmm.
L'État a sa responsabilité. Les citoyens que nous sommes, nous avons aussi notre part de responsabilité. Par rapport à ce que nous connaissons chez nous, nous devons le reconnaître, si je peux ainsi me résumer,
qu'il
y a des décalages manifestes entre les programmes scolaires et les besoins locaux. Donc, au niveau du volet de la formation, il manque l'aspect pratique, le volet entrepreneuriat, ainsi de suite. Oui, pour parler de la création des emplois, là, nous devons aussi insister sur la synergie interministérielle à laquelle faisait allusion notre invité, car créer un emploi n'implique pas seulement un ministère, mais cela doit impliquer un groupe de ministères. Oui, un autre aspect que je peux ajouter, c'est avant d'arriver à l'exemple, les emplois se créent par rapport aux besoins des lieux. Donc les emplois que nous devons créer au Congo, c'est par rapport aux besoins que nous ressentons au Congo. Donc on ne peut pas, par exemple, créer au Congo les emplois par rapport aux citoyens de Paris ou bien de Bruxelles. Donc il y a beaucoup de choses qui se sont dites au niveau de la formation, au niveau du programme. Mais je vais finir mon intervention avec un exemple, M. Pierrot. Accordez-moi 30 secondes, s'il vous plaît.
Oui, allez-y,
Vous voyez la proportion de la saleté que nous avons à Kinshasa. Si, par exemple, l'État peut s'engager à acheter 20 000 camions BEN et qu'on doit affecter dans chaque véhicule BEN 5 personnes, on aura déjà créé 100 000 emplois. Et sur les 5 personnes, on aura un chauffeur, on aura deux ramasseurs et deux traiteurs chimistes. Donc, on va employer et les universitaires, et les techniciens, et les gens qui n'ont pas fait les universités. Je crois que c'est parfois facile à créer des emplois si vraiment on a de la volonté politique.
Mm-hmm.
Puis, de deux, un autre exemple. Quand vous sillonnez les centres-villes de la Gombe là-bas, si vous avez besoin de vous acheter quelque chose coûtant $30, vous allez vous retrouver avec 15 commissionnaires pour $30. Mais qu'est-ce qui manquerait qu'on crée aussi des agences intérimes?
au lieu que ces expatriés aillent prendre des gens qu'ils veulent pour les payer comme ils veulent, ces agences intérim peuvent leur recommander des gens qu'ils auront besoin, soit pour les chargements, soit pour les petits services là-bas, et aussi fixer des salaires pour ces gens-là. Même au niveau de nos barrières, au niveau de nos ports. Il y a parfois des emplois qu'on pouvait canaliser, mais lesquels sont un peu comme ça laissés en l'air, quoi.
Merci,
je crois
merci
que les idées, besoin de dire, nous avons des responsabilités, mais il ne doit pas oublier que c'est d'abord l'État qui, à travers ses responsabilités régaliennes, doit pourvoir les emplois de ses citoyens.
Merci.
Les citoyens, ils peuvent ajouter. Maintenant,
merci,
nous avons aussi besoin d'une légalisation forte pour ces gens.
On est au-delà des 30 secondes que vous aviez demandé. Merci beaucoup, Franck. On revient à vous, monsieur Polydor, parce qu'on va terminer. On a suivi les uns et les autres. Tout a été dit. Le débat, il est vraiment intéressant. C'est qui montre même qu'on, je peux appeler ça les états généraux de l'emploi où chacun a pu donner ses idées. C'est très important. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir en quelques mots? Parce qu'on a que 1 minute 45 secondes pour terminer. Qu'est-ce qu'on peut retenir?
D'abord, il faut retenir qu'il y a le primat de l'individu en tout et pour tout. L'État peut tout organiser. Un problème d'emploi est un problème volontaire. Voilà pourquoi aujourd'hui on parle de la sous-administration. Il y a des postes qui sont vacants à l'intérieur. Les gens ne partent pas. Pourquoi? C'est d'abord un problème de volonté. Donc l'aspect individuel prime sur tout. Il y a certains qui refusent de travailler ici et aller travailler en Europe. C'est d'abord un problème individuel. Les emplois peuvent être là, mais il faut une volonté. Une accommodation entre l'individu et l'emploi à exécuter. C'est pas discutable, c'est consacré. Alors, je crois que beaucoup a été proposé. Il faut une prise de responsabilité à tous les niveaux. Au niveau individuel, au niveau familial. Aujourd'hui, nos familles ont trouvé le gouvernement comme oreiller de paresse. Quand votre enfant est dans une section où il n'a pas d'aptitude, où est la responsabilité du gouvernement? Vous l'avez laissé faire les maths physiques puisque son ami a fait les maths physiques. Où est la responsabilité du gouvernement? Donc, je ne sais pas trop du... Je reviens au schéma. Au niveau individuel, chacun doit d'abord se connaître, connaître ses aptitudes pour ne pas faire n'importe quoi et créer de chômage pour rien. La famille doit encadrer l'enfant,
merci,
puisque c'est elle qui dresse les différentes orientations. Et le gouvernement,
merci,
tout le monde en a évoqué ici, au niveau de la formation, la synergie des structures.
Merci. Merci beaucoup, Polydor Tanguilé. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes psychologue du travail et enseignant. Merci à tous les auditeurs. Vous avez été très bon à commenter, à proposer des pistes, des solutions pour permettre à la jeunesse d'accéder à l'emploi. Merci à Gilles Lungembo qui a coordonné et réalisé cette émission mise en nom de part Paul Badianyama. Nicole Ngatia l'a supervisé. Piero et la Méji vous l'a présenté. Vous allez retrouver cette émission à 20h03 heure de Kinshasa en rediffusion. Merci et au revoir. Thank you.